Le yiddish aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern. Bonjour Astrid.
Bonjour Annette. Ah, ouf, de retour.
De retour, exactement. Bon, après...
Comment ça va?
Des péripéties. Bon, pour le faire court, je me suis cassé la cheville le 17 septembre. Et donc, me voilà de retour mi-novembre. Et je marche quand même encore très difficilement. Mais bon, j'avais tenu à venir... faire l'émission parce que ça me manque beaucoup de ne pas être dans ce studio et de ne pas pouvoir partager avec vous mes connaissances et les rencontres. Voilà, bien que je sais que Astrid a assumé ça très très bien pendant les deux mois de mon absence.
Entre autres. Bon, alors en plus, non seulement tu viens, mais en plus c'est pour parler d'une récente publication signée de ton nom, Doris Angèle.
Voilà, donc là, je me démasque. Donc, je ne suis plus Annette Fern, mais je suis Doris Angèle, donc mon vrai nom, effectivement. Voilà, donc après de multiples péripéties, est sorti ce livre aux éditions de l'Harmattan qui s'appelle « Le pape juif, une légende à travers les siècles », dont j'ai traduit des textes en yiddish, j'ai fait des introductions et des textes complémentaires. Ceci dit, je veux tout de suite... nommé Martin Szilárd, qui a travaillé avec moi sur la traduction il y a déjà très longtemps.
D'accord. Il faudrait l'inviter aussi une fois. Parce qu'elle a débuté complètement à zéro, le yiddish, il y a fort longtemps maintenant.
Oui, elle avait commencé à zéro. Alors, Martin Szilárd est une Alsacienne, donc il parle alsacien, mais qui a surtout été une professeure de latin et de grec, donc qui a un rapport au texte tout à fait habituel, et donc qui avait effectivement commencé le yiddish il y a un certain nombre d'années, et qui a vite progressé, et puis qui aussi était quelqu'un qui travaillait, qui traduisait. Donc on a traduit des choses ensemble, et puis... voilà, donc là, ça fait plusieurs années que je ne l'ai pas vue, mais bien sûr, je vais lui envoyer ce livre.
Ah, bien sûr. Parce que... Alors, l'origine, c'est quoi déjà ton intérêt pour ça, pour ce pape juif?
Oui, alors c'est parti en fait d'un séminaire d'une université d'été que nous avons eu il y a déjà fort longtemps, je crois que ça fait 20 ans, avec Yosef Sherman. Donc, un éminent yiddishiste, un professeur d'université, et qui a écrit un texte sur ce pape. Donc, l'idée était d'étudier, donc, pendant les trois semaines du séminaire, des textes concernant donc, une légende. Alors, quelle est cette légende? C'est un jeune garçon juif... dans une famille très religieuse, bien sûr. Son père est un éminent rabbin. Donc, tantôt ça se passe à Francfort, tantôt à Mayence. Donc dans le monde germanique, hein, dans le monde ashkénaze, évidemment. Et un jour, ce jeune garçon est enlevé par sa bonne ou par un serviteur, amené chez des chrétiens. Et comme il est extrêmement doué pour les études... Il gravit peu à peu tous les échelons de la hiérarchie catholique et il devient pape. Ça, c'est la première partie. Donc, pendant ce temps-là, les parents sont désespérés, ils prennent le deuil, enfin, ils ne savent vraiment plus quoi faire, parce que c'est leur unique enfant aussi. Et puis, des années après, un édit d'expulsion vient, donc soit pour les Juifs de Francfort, soit de Mayence. Tout le monde est absolument catastrophé. On va voir l'aristocrate qui s'occupe de la ville et qui dit « Ah ben ça, c'est pas moi, c'est directement le pape qui a envoyé cet ordre. » Donc, une délégation se rend à Rome, voir le pape, et dans cette délégation est bien sûr le père du jeune garçon. Et lorsqu'ils arrivent chez le pape fait sortir tout le monde et demande à rester juste avec le vieux juif, enfin celui qui est le président, si on peut dire, de la délégation. Et il dit qu'il veut jouer aux échecs. Et il commence à jouer aux échecs et tout d'un coup, le pape fait un coup que lui a appris son père. Et donc le père, qui ne sait pas qu'il est son fils, évidemment, est complètement stupéfait, il dit « Mais qui vous a appris ce coup ? Il n'y a que moi qui le connais et mon fils disparu. » Et donc, il révèle qu'il est son fils. Et quelque temps après, ce pape s'enfuit de son poste, rejoint en secret la communauté juive et finit sa vie dans cette communauté. Donc, j'ai décrit cette légende comme une légende de consolation, c'est-à-dire que au moment où les Juifs sont extrêmement persécutés, humiliés, où l'Église catholique est triomphante et leur fait bien sentir le poids de sa puissance, eh bien, ils inventent cette légende où le juif peut devenir un pape, mais renonce finalement à ça pour retourner au judaïsme.
Bon, on va illustrer toute cette histoire par de la musique chrétienne pour commencer. Non, vous êtes bien sur Radio Judaïka, mais on va passer donc le Lacrymosa du Requiem de Mozart. Et comme il y avait justement une création d'un Requiem, pas plus tard que dimanche au Palais des Fêtes, auquel j'ai assisté, donc un truc contemporain, pas très contemporain d'ailleurs, je n'ai pas trouvé ça très contemporain. Bref, voici le texte du Lacrymosa, je vais vous le dire tout de suite en traduction, parce que le latin ne vous intéresse pas tellement. « Jour de larmes que ce jour-là, où ressuscitera de la poussière, pour le jugement, l'homme coupable. Daignez, mon Dieu, lui pardonner. » Donc voici le Lacrymosa du Requiem de Mozart.
Voilà bon. Sans doute ce qu'entendait ce pape à Rome quand il, pendant qu'il exerçait ses fonctions.
Je voulais te poser des questions sur ce jeu d'échecs, parce que déjà, l'histoire est quand même bien compliquée, cet enlèvement, ce départ, le fait que l'enfant devenu grand devient pape, mais c'est le jeu d'échecs qui le révèle.
Oui, effectivement.
Est-ce que c'était un jeu spécifiquement juif ? Est-ce que les juifs y jouaient beaucoup ? Est-ce que c'était...
Alors, je rappelle un petit peu l'histoire du jeu d'échecs et je rappelle aussi que chez les juifs, au début, ce n'était pas bien vu, quoi, en fait. Et peu à peu, ça a été, ça a pris de l'ampleur, et en particulier pour des moments où on n'avait plus la force, par exemple, d'étudier le Talmud, d'étudier. C'est vraiment un délassement qui est permis. Et donc, effectivement, certains rabbins sont devenus de très bons joueurs d'échecs, dont je crois le Gaon de Vilna lui-même. Et le jeu a fini par prendre quand même une certaine noblesse, évidemment par rapport au jeu de cartes et aussi par rapport au jeu d'argent. Hein. Disons que, évidemment, il n'était pas question de jouer pour de l'argent. Mais c'est aussi, là c'est d'ailleurs ce qu'il dit, qu'il me semble qu'à certains moments, des aristocrates, donc non-juifs, viennent jouer dans une des versions, ils viennent jouer avec un rabbin. Et c'est une façon, pour les juifs, de vaincre les gens qui les dominent. Hein. Mm-hmm. C'est, disons, sur l'échiquier, ils ont une position de force qu'ils n'ont évidemment pas dans la vie réelle. Mm-hmm. Voilà, donc c'est... Oui, les juifs sont devenus de bons joueurs d'échecs, peu à peu. C'est vrai que ça joue un rôle central dans l'histoire, où c'est comme ça que c'est un signe de reconnaissance entre le père et le fils. Donc le père qui aurait inventé vraiment un coup.
Qu'il aurait appris à son enfant. Jeune. Jeune qu'il a été.
Oui, jeune. Oui, alors là aussi, à différents âges, selon les versions.
C'est donc justement, parle-nous de ces versions. Combien il y en a ?
Alors la première version a été édité en 1602 à Bâle, sous le titre d'Achein Meisebuch, ce qui comprend de nombreuses histoires. C'est Astrid Starr qui a réussi à le faire éditer en fac-similé et avec une traduction. C'est du yiddish ancien, aussi bien au niveau de la langue qu'au niveau de l'écriture, donc ce n'est pas facile à lire si on n'a pas l'habitude, mais c'est imprimé, hein, c'est pas un manuscrit, c'est imprimé. Donc 1602 à Bâle, certainement écrit à partir de légendes qui s'étaient répandues oralement, bien sûr. Donc 1602, c'est la première édition. Moi, j'ai retraduit ce texte, hein, pas d'après le fac-similé d'Astrid Stark, mais d'après un texte un peu plus récent. Et puis ensuite, il y a eu une version de Heiser Meyerdick. Donc Heiser Meyerdick est finalement le premier auteur yiddish qui a écrit des best-sellers. Donc il a écrit des petits récits très divers et qui ont eu beaucoup de succès. Donc là, on est au XVIIIe siècle. Oui, ce que je voulais dire, c'est que Achein Meisebuch comprend beaucoup, beaucoup de contes. Hein, et l'histoire du pape juif est une des histoires très courtes, d'ailleurs. Heiser Meyerdick, lui, déjà, l'allonge. Et puis ensuite, la version suivante, c'est celle de Yehiel Trunk, qui est aussi un écrivain important du XXe siècle. Alors lui, qui a écrit en particulier ses mémoires en 6 volumes, et qui a aussi repris des contes juifs, des histoires traditionnelles, en particulier les histoires de Chelm, hein, donc les histoires de ces idiots de village, on peut dire, qui ne sont pas vraiment des idiots, qui ont un raisonnement un petit peu bizarre. Et donc, une des histoires qu'il reprend, c'est celle du pape juif, avec alors beaucoup de descriptions historique, hein, c'est-à-dire que bon, on est au XXe siècle, donc il s'est renseigné sur comment se passait la vie des Juifs à Rome, et en particulier un épisode qui est réel, c'est-à-dire que les Juifs étaient obligés d'assister à des sermons dans des églises, et alors ils se bouchaient les oreilles pour ne pas entendre les sermons. Et donc quand le rabbin la délégation rabbinique d'Allemagne arrive, les juifs de Rome leur montrent comment il faut suivre les sermons sans vraiment les écouter. Mmh. Et il y a beaucoup de, oui, d'éléments historiques, aussi la description du Vatican. Voilà. Et puis ensuite, il y a une version dont je n'ai pas pu mettre la traduction parce que c'est édité chez Stock, traduit par Marie-Pierre B. Et il est difficile d'obtenir les droits pour l'éditer. Vous savez aussi qu'on n'a pas le droit de retraduire les œuvres de Bache-Wiesinger. Voilà, c'est Isaac Bache-Wiesinger. Donc, il y a lui aussi écrit une version de cette histoire. Ça s'appelle en yiddish « Zeidlus der Erster ». Alors, c'est déjà un titre extrêmement amusant, puisque Zeidlus, Zeidl, ça veut dire petit grand-père, quelque chose comme ça. C'est un prénom typiquement juif, évidemment, et typiquement yiddish. Et donc, latiniser ce nom en Zeidlus, c'est très ridicule.
Ah oui,
parce que Paulus, voilà, il y a des noms qui se prêtent bien, mais par exemple Zeidlus, et Zeidlus der Erste. Et bien sûr, il n'y a pas eu de Zeidlus le deuxième, etc. Donc le titre en yiddish est déjà extrêmement comique. En français, eh bien, on a été obligé de traduire par le pape Zeidlus, voilà, ce qui perd déjà beaucoup de charme. Et donc, en fait, je fais une comparaison entre le texte yiddish auquel j'ai eu accès et le texte français ou anglais. Vous savez bien que Zinger a exigé qu'on traduise ses œuvres. Enfin, il a lui-même traduit ses œuvres en anglais. Ensuite, il a exigé que les versions suivantes soient partent de l'anglais. Donc, la version française part de l'anglais. Et c'est une histoire beaucoup, extrêmement amusante, ironique. C'est en fait un juif qui fait des études juives, qui se marie. C'est un personnage un peu bizarre, une espèce d'androgyne ou de nu qu'on ne sait pas très bien. En tout cas, sa femme n'a pas d'enfant et elle se traîne dans la maison. Et finalement, le diable arrive et le convainc de se convertir au christianisme pour devenir éventuellement pape. Et alors, il répudie sa femme, il divorce de sa femme, il commence des études chrétiennes dans lesquelles il est très fort, mais il y a un moment où il n'arrive pas à monter dans la hiérarchie, finalement il devient aveugle, il finit comme mendiant. Et donc, on y a vu une métaphore du sort des Juifs, et en particulier de l'écrivain yiddish, qui soit doit continuer à écrire en yiddish et personne ne le lit, soit se fait traduire et finalement perd son âme. En tout cas, c'est une nouvelle extrêmement réussie, qui est d'un humour noir très très prononcé. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une comparaison entre le texte yiddish et le texte français. Malheureusement, le texte français n'est pas dans mon livre, mais on le trouve facilement dans les livres de Bache-Wiesinger. Voilà.
Les nouvelles, quoi. C'est
parce que dans les nouvelles, voilà, une série de nouvelles qui s'appelle Le beau monsieur de Cracovie.
Ah oui, c'est dans ce livre-là.
Dans ce livre-là, il y a le pape Zeidlus, donc traduit, comme j'ai dit, par Marie-Pierre.
On écoute un petit peu quelque chose de juif.
Voilà, absolument.
Absolument. Dom Bent Kahan, qui a fait un montage d'air traditionnel juif. Ça commence par le Chadodi, ça continue par Shabbos, et ensuite il y a Shalom Aleichem, mais on va en écouter. Et puis pour finir, il y a Vosvel Miamachen Ven Mashiach Vetkumen, mais l'ensemble est très très long, donc on ne va pas l'entendre jusqu'au bout, parce qu'on a encore des choses à discuter, en particulier sur Lustiger.
Absolument.
Voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, Ben Tekan.
Shabbat nekabela lecha dodi likrat kala pnei Shabbat nekabela lecha dodi lecha dodi likrat kala pnei Shabbat nekabela lecha dodi likrat kala Shamor vezachor bedibur echad Ishmienu el hamyochad Adoshem echad Ushemo echad Shem letifer bnei Shabbos. So sein jeden Shabbos. Shabbos, so sein Shabbos, so sein Shabbos auf der ganzen Welt. Yontef, 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 Yontef. So sein jeden Yontef. Yontef, so sein Yontef, so sein Yontef auf der ganzen Welt. Ya ba 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 ya ba 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 ya ba 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 ba. Shalom 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 shalom, so sein jeden Shalom. Shalom, so sein Shalom. Shalom auf der ganzen Welt. Shabbos, 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 Shabbos. So sein jeden Shabbos. Shabbos, so sein Yontef, so sein Shalom, so sein Shalom auf der ganzen Welt.
Alors, l'énigme, ça reste ce cher cardinal Lustiger. Il a frôlé la papauté.
D'après moi, oui. C'est-à-dire que je consacre la dernière partie un petit peu à des aspects historiques. Donc, trois choses. D'abord, qu'il y a eu un vrai pape juif, enfin un pape dont venant d'une famille juive, sous le nom, je crois, de Anacléos Ier, bien sûr, puisqu'il n'y en a pas eu d'autres. Et c'est intéressant parce que lorsqu'il a été nommé, il y a eu une fronde au sein de l'Église et donc la nomination d'un autre pape. Et pendant un moment, ils étaient à deux. Et lorsqu'on prend la liste des papes, ce Anacléos a disparu de la liste des papes.
Ah bon ?
Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a eu l'affaire Mortara qui a donné le film L'Enlèvement.
Oui.
Ça, c'est un jeune garçon juif qui a été baptisé par sa servante parce qu'elle pensait qu'il allait mourir. Donc, elle a eu peur et puis elle l'a baptisé. Et donc, ensuite, on est venu le chercher. Les catholiques sont venus le chercher. Donc, ça, c'est au 19e siècle et ça a fait toute une polémique, et le pape a refusé de rendre cet enfant qui a été élevé dans la religion catholique, qui est resté toujours catholique, qui est monté aussi dans la hiérarchie catholique et qui a renoué avec ses parents à la fin de la vie de sa mère. En particulier, il a assisté à les derniers jours de sa mère. Il lui avait proposé de se convertir au christianisme, qu'elle a bien sûr refusé. Et il est resté là, dans le christianisme toute sa vie. Et puis, le cardinal Lustiger, voilà, dont je parle, et qui lui aussi s'est converti lui-même. Hein, donc, c'est quelqu'un qui a vraiment eu la conviction que le christianisme était l'aboutissement du judaïsme. Et qui a donc lui aussi monté dans la hiérarchie. Et je dis que si Jean-Paul II n'avait pas eu une si longue carrière, peut-être que Aaron Jean-Marie Lustiger aurait pu devenir pape. Donc je consacre un chapitre à Lustiger parce que c'est aussi une figure très intéressante et très isolée finalement de cette conversion au christianisme par conviction. Et voilà, de quelqu'un qui a vraiment essayé d'unir les deux religions et qui est resté finalement un cas unique.
Oui.
Alors, ce livre est édité à l'Harmattan. Donc, l'Harmattan, c'est malheureusement une édition qui n'est pas très diffusée, mais vous pouvez l'acheter soit chez votre libraire, le commander chez votre libraire, ou le commander peut-être directement à l'Harmattan et le commander aussi par Amazon. Le prix, c'est 20 euros.
Voilà, il y aurait encore beaucoup à dire, mais merci pour tous ces éclaircissements et merci Thomas et à la semaine prochaine.
Shalom Aleichem.
Le Yiddish aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités.
Avec Astrid Ruf
et Annette Fern.